petits parmi nous sont invités à recevoir un enseignement adapté à leur âge, à l'étage.
Quant à nous, nous allons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4. Mais avant cela, je vais prier pour demander à Dieu d'illuminer nos cœurs et nos esprits. Dieu de toute sagesse, c'est toi qui nous as donné les Écritures, afin que par elles nous soyons conformés à Jésus-Christ. Ce qui veut dire que nous serons sans doute appelés à trancher du reste du monde avec des attitudes différentes, peut-être étonnantes. Veuille toucher nos cœurs ce matin, afin que ta parole lue, prêchée, reçue, ait un effet conformant sur nous. Que l'on puisse rejoindre le Christ et son apôtre Paul dans la mort, et donc aussi dans la vie. Et à travers nous, nous prions que ta grâce fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre dans cette ville de Paris et en Île-de-France, à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous, mais la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons. Et c'est aussi pourquoi nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Vous allez vous asseoir. Il y a quelques années, au château de Versailles, il y a une exposition qui mettait les projecteurs sur les visiteurs illustres et tout autre ambassadeur qui était passé à Versailles dans le siècle qui avait précédé la Révolution française. Alors, il y a quelques visiteurs qui étaient venus incognito, mais pour l'essentiel, les visites d'ambassade avaient été l'occasion pour les visiteurs d'impressionner la cour du roi de France. Il y avait toutes sortes d'animaux exotiques qui avaient été offerts et des manifestations grandioses. Eh bien, en matière de diplomatie, rien n'a changé. Il faut impressionner. Ce n'est pas un hasard si les ambassades sont toujours situées dans les plus beaux quartiers de nos villes. Même un pays qui n'aura peut-être pas les moyens voudra mettre le paquet sur son ambassade, sur ses voitures de fonction et sur les représentants hauts en couleur qui viendront donc manifester quelque chose de la gloire du pays d'origine. Jusque-là, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul vient de glorifier son ambassade de la part de Jésus-Christ. Il a fait de son apostolat la fonction la plus haute qui soit. Il s'est décrit comme un ministre de la vie. Et c'est au nom de la vie qu'il parle à tous, avec beaucoup d'aplomb. Mais les Corinthiens sont peut-être pas dupes. Pour qui est-ce que Paul se prend? Sur plusieurs années déjà, ils ont vu son dénuement. Et ils ont même entendu Paul en parler de façon très candide. Et pour eux peut-être, et peut-être pour nous aussi, ce quotidien va démentir le statut glorieux, la gloire dont Paul peut vouloir parler. Dans la catégorie des ambassadeurs, l'apôtre Paul est plutôt un vase de terre, ce qui n'est pas glorieux, en tout cas pas au premier siècle. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un rapport différent avec la poterie. Mais un vase de terre dans le monde de Paul, serait l'équivalent d'un gobelet en plastique, un objet sans valeur. Cette drôle de posture, à la fois ambassadeur glorieux et vase de terre, elle pose une question brûlante. Si le message est glorieux, pourquoi le quotidien du messager ne l'est pas aussi ? C'est un contraste qui était ressenti vivement au 1er siècle, à Corinthe. Il l'est peut-être encore aujourd'hui. Pourquoi serait-il ressenti moins vivement ? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas chrétiens, ça va peut-être se régler dans l'heure qui vient. Qui sait, peut-être que cet apôtre Paul n'en aura pas assez pour vous impressionner. Mais bien sûr, ne pas écouter Paul sous prétexte qu'une odeur de mort lui colle à la peau, c'est aussi se détourner de son Seigneur, Jésus-Christ. Car si vous approchez d'un Paul affaibli, vous dégoûte un peu, qu'est-ce que vous allez faire d'un Jésus-Christ crucifié ? De toute façon, est-ce qu'il ne convient pas de se regarder honnêtement, soi-même, dans le miroir avant de faire la fine bouche sur Paul et ses malheurs ? Chacun d'entre nous est plus faible qu'il n'y paraît, plus tiraillé qu'il ne le voudrait, plus vulnérable qu'on aime se l'avouer. Pour vous comme pour moi, c'est pas la gloire, et vous le savez sans doute. Que ce soit la solitude, un célibat forcé, une séparation, la précarité professionnelle, la maladie chronique, la peur de la mort, il y a largement de quoi nous affliger, tous et chacun, quoi qu'on en dise. Et ce matin, j'aimerais vous persuader d'assumer votre faiblesse. Mais pas seulement l'assumer, parce qu'il y a des champions de la vulnérabilité qui vous convaincront qu'on gagne à assumer ses faiblesses. Je voudrais qu'on aille un cran plus loin. Si vous croyez au Dieu de Jésus-Christ, j'aimerais vous persuader de parler de votre faiblesse autour de vous. Car quand on croit au Dieu de la vie, on peut et on veut parler de tout et de tout cela avec candeur, sans regret ni contrainte. Voilà ce que nous allons voir ce matin. Quiconque connaît le Dieu de la vie voudra parler haut et fort dans son malheur et de son malheur. Mais avant d'en arriver là, je vous propose de vous tourner vers notre premier point, versets 7 à 12 du chapitre 4. La vie est manifestée au travers de la mort, versets 7 à 12. La vie est manifestée au travers de la mort. Et c'est un paradoxe qui figure au verset 10 et 11. Relisons-les ensemble, si vous voulez bien. Nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste aussi dans notre chair mortelle. Paul dit deux choses assez paradoxales. Il dit vivre et il dit mourir. Il vit et il meurt tout à la fois. Comment est-ce que c'est possible ? Comment est-ce que ça marche ? Eh bien, plus Paul est au fond du trou, plus cela témoigne de la vie qui demeure, quand bien même, en lui. Plus sa vie ne tient qu'à un fil, plus le fil qui le relie à Jésus est remarquable. Dans la révélation du Dieu de la vie, l'expérience rapprochée de la mort a un rôle à jouer. Comme quoi un Paul quotidiennement affaibli était bien à sa place en tant qu'ambassadeur du ressuscité. Mais pour que l'ambassade se déroule jusqu'à bon terme, encore faut-il que l'ambassadeur survive à cette expérience quotidienne et affligeante de la mort. Et c'est pas rien. Qui est-ce qui peut traverser la détresse encore et toujours et en sortir par le haut ? Alors bien sûr, la bougie magique pour les anniversaires, une fois qu'elle est soufflée, elle se rallume encore. C'est chouette, ça dure 3 ou 4 fois. Un boxeur comme Rocky Balboa peut se relever encore et encore et faire des choses incroyables, reprendre le combat quand on n'y croyait plus. Mais c'est le scénario du film qui veut cela. Le bateau qui symbolise la ville de Paris a beau être ballotté, vous le savez, il ne coule pas. Mais c'est une devise qui sonne bien. Certains psychologues parlent de résilience pour désigner la capacité à rebondir. Sauf que là, je crois que Paul a dépassé depuis très longtemps les seuils de résistance. Regardez les versets 8 et 9. Pressé de toutes parts, désemparé, persécuté, abattu. Et particulièrement dans ces deux épîtres aux Corinthiens, il ira encore plus loin pour exprimer ses misères, ses malheurs. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Mais justement, sa résistance tient d'autant plus du miracle. Et les Corinthiens ne vont pas se l'expliquer. Paul, quant à lui, va attribuer cette vie miraculeuse en lui au Dieu de Jésus-Christ. La puissance dont il vit est une puissance surnaturelle. Et ce qui se donnait à voir en lui autrefois, ne se donne-t-il pas encore à voir aujourd'hui ? Quand vous lisez les histoires de chrétiens persécutés, des gens du passé, des gens d'aujourd'hui, est-ce que vous ne vous demandez pas comment est-ce qu'ils font pour tenir ? Si ces chrétiens-là ne tombent pas dans le désespoir, est-ce que ça ne suggère pas une puissance de vie extraordinaire qui serait à l'œuvre en eux aussi, comme en Paul autrefois ? Et cela ne vaut-il pas encore pour nous tous, réunis ce matin, une puissance extraordinaire de vie n'est-elle pas à l'œuvre en nous aussi, qui nous fait nous relever quand on n'y croit plus ? Auquel cas, nous sommes des chrétiens avec un super pouvoir, celui dont parlait Paul déjà, une puissance de vie. Je ne sais pas quelle a été votre expérience sur les dernières années, les dernières décennies. Je ne sais pas quelles afflictions il vous a été donné de connaître, de vivre. Peut-être vous-même, peut-être un proche. La vie en général et la vie chrétienne en particulier ne sont pas faciles. Et peut-être que la dernière chose dont vous avez envie ce matin, c'est que je vous parle de ces faiblesses et que je les revisite. Si effectivement c'est votre quotidien ou une douleur que vous portez. Mais justement, alors peut-être que ce passage de la deuxième épître aux Corinthiens est pour vous spécialement. Il va vous aider à vivre votre faiblesse avec intelligence. Comprenons ceci, la vie qui rayonne au travers de notre faiblesse, c'est la vie du Dieu de Jésus-Christ. Il n'y a rien de plus précieux, de plus merveilleux. Chez le chrétien individuel, mort et vie vont à leur tour se manifester ensemble. Ça vaut pour l'individu, mais il y a aussi une dimension plus corporative, il me semble. Regardez les différents pronoms qui sont utilisés au verset 12. Ainsi, la mort agit en nous, mais la vie en vous, en nous, en vous. Qu'est-ce que ça veut dire en ce qui concerne Paul ? Eh bien, plus la proclamation de Paul perdure au 1er siècle, plus des personnes viennent à la vie et sont affermies dans la vie. À ce titre, le calvaire de Paul a du sens. Son endurance a du bon pour l'affermissement de beaucoup d'autres. Et vous dites peut-être que ça valait pour Paul. Lui avait un impact colossal. Il pouvait vivifier toutes sortes de personnes autour de lui. Mais se peut-il que l'expérience du chrétien ait toujours, elle aussi, un impact ? Par exemple, la persécution de chrétiens dans d'autres pays ne contribue-t-elle pas à notre encouragement à nous, chrétiens de France ? Voilà que la mort agit en eux et que par l'exemple de leur foi, la vie est ravivée en nous. Alors même que ces chrétiens persécutés ignorent tout de nous, même leur triste réalité peut impacter notre vie spirituelle par deux vers eux, à leur insu. Mais il y a quand même un prérequis dans cet exemple. Il faut que la persécution en question nous soit connue par un témoignage direct ou indirect. Celui d'une œuvre qui nous rapporte ces choses, ou d'un média qui en fait état. Et on en vient justement au faire savoir. Car disons-le tout net, Paul a de plus grandes ambitions que simplement nous faire mieux vivre notre faiblesse. Il ne s'agit pas de vivre mieux dans notre coin. Bien sûr qu'assumer notre vulnérabilité va nous faire du bien, mais il ne faut pas en rester là. Mieux accueillir nos afflictions sans en parler, ça ne serait pas laisser assez de place à la puissance qui est à l'œuvre au travers des afflictions dans toute l'Église et au-delà. Paul veut encore que nous ouvrions nos bouches pour parler de nos afflictions et vivifier l'Église et le monde. Et c'est notre second point à partir des versets 13 à 15. Parce que le chrétien y croit, il parle de sa mort. Parce qu'il y croit en ce Dieu de la vie manifesté au travers de la mort, il va parler de sa mort, de ses malheurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les lettres de Paul aux Corinthiens font tout particulièrement état des malheurs de l'apôtre. Au point qu'on s'interroge avec les Corinthiens, qu'est-ce qui lui prend d'ouvrir encore la bouche? Qu'est-ce qu'il fait qu'il parle tout court? Par gêne, par réserve, ne faudrait-il pas que l'apôtre se taise? En tout cas, les chrétiens de Corinthe, eux, se seraient tus. Pour moins que cela, ils auraient fait un bas visage. Mais Paul, lui, il parle, et il parle encore. Et il s'en explique au verset 13. « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai parlé. Parler de quoi, vous me direz? Eh bien, c'est le psaume 116 qui est cité ici, qui va nous permettre de remplir ce blanc. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et voilà le contenu de la parole. Je suis bien malheureux. C'est pas en dépit de la détresse que Paul va parler, malgré elle. C'est pas non plus dans la détresse, au travers de la détresse, qu'il va parler, encore que ce soit vrai. Je crois que dans le contexte, c'est de sa détresse dont Paul parle. Le psaume 116, dans sa version 10, dans la version de la Septante, dit rien moins que cela d'ailleurs. Et Paul en est un bon interprète. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai dit, je suis bien malheureux. Il s'agit de dire haut et fort notre malheur. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, on vit dans un monde qui n'aime pas trop parler de sa faiblesse, qui en parle quand une solution est en vue, et seulement alors, quand il y a une situation exploitée, une personne à manipuler peut-être. Mais hors de ces cas-là, à quoi bon s'ouvrir? À quoi bon s'exposer? Faire connaître un malheur si on n'en attend aucun bénéfice pour nous? La personne qui partage une photo le soir d'un grand chagrin, avec les yeux rouges sur l'image. La personne qui va publier volontiers qu'il a encore une fois raté son permis de conduire. La personne qui va dire haut et fort qu'il n'est plus en mesure de se porter seul, de vivre seul, de se prendre en charge seul, qu'il a besoin d'aide. Et la personne qui partage très largement un diagnostic de cancer ou quelque chose de très personnel. Les beaux quartiers et les beaux quartiers parisiens ne parlent pas facilement de leur détresse. C'est vrai dans le 6e sans doute, certainement dans le 16e que j'habite. Les gens gardent ça pour eux, ne savent pas quoi en faire vraiment. On est seul face à ces détresses. À la rigueur, on s'en ouvre à une meilleure amie ou à un psychologue. Mais dans le quotidien, dans la plupart de nos interactions sociales, est-ce qu'on parle des vrais sujets, des sujets qui font mal? Et ce constat-là, et je le fais alors même que je suis convaincu que nos contemporains meurent d'envie de faire partie d'une communauté où on parle vrai, où on se dit les choses comme elles sont, nos peines, nos douleurs. Il y a une profonde aspiration à une communauté authentique où on pourra tout dire, tout partager. Et Paul nous conduit dans cette direction si nous sommes chrétiens et si nous voulons l'écouter. Lui peut se permettre d'aller dans cette direction seulement parce qu'il croit dans le Dieu de la vie. Il va parler de sa faiblesse sans réserve parce qu'il voit le bout du tunnel. Il voit tout le bien qu'elle lui fait, la façon dont elle le conforme au Christ, la façon dont elle le met sur cette trajectoire de résurrection. Paul va parler de sa détresse parce qu'il croit au Dieu de la vie. Il croit en un Dieu qui s'est manifesté ultimement dans la faiblesse, sur une croix. L'expérience de la mort, elle n'est jamais agréable. Les larmes, effectivement, défigurent un visage. La souffrance fait perdre l'équilibre. Mais si on croit au Dieu de la résurrection, on croit au Dieu qui donne et redonne la vie, encore et toujours. Chaque semaine, à la chapelle de Nesle, nous confessons notre foi. Maintenant, est-ce que nous vivons la confession de notre foi en un Dieu de la résurrection? Un Dieu qui relève. Si on croit en un tel Dieu, alors on voudra parler de toutes nos misères quand elles nous arrivent. On se permettra de dire à voix haute, je suis dans le malheur. Voyez-vous, ce n'est pas indigne d'un chrétien que de parler ainsi, ce n'est pas se plaindre. Au contraire, dire « je suis dans le malheur », il se pourrait que ce soit une marque de foi, un témoignage de foi. Peut-être serons-nous les seuls à parler ainsi. Ça sera remarquable. Et ça en dira long sur le Dieu de la vie, si et quand on n'a pas peur de dire tout haut notre affliction, le fait que nous vivons dans un monde sous le péché, que nous faisons partie de ce tissu humain, ces vies fracturées. Paul n'a pas eu de réserve sur ces questions qui étaient très intimes, finalement, ni envers les Corinthiens, ni envers le monde. Il a parlé de la croix du Christ. Il n'a rien voulu savoir d'autre que le Christ crucifié. Et il a parlé de son chemin de croix personnel à la suite du Christ. Alors je sais, on a peut-être l'impression que parler autour de nous d'un chemin de croix, ça va repousser le plus grand nombre des Parisiens, tous ceux qui ne croient pas. Est-ce que nos enfants, nos petits-enfants, ont vraiment envie d'entendre cela? Peut-être qu'à vos anniversaires, une fête de famille, vous avez l'occasion de prendre la parole. Quel témoignage vous allez donner à vos enfants, vos petits-enfants? Est-ce que vous avez parlé de ce qui vous fait mal? Peut-être que vous dites que ceux qui nous croisent n'ont peut-être vraiment pas les moyens d'encaisser notre malaise. Et c'est vrai qu'on ne voudra pas ni intimider, ni écraser. Est-ce que nos amis vont vraiment gagner à nous voir batailler avec le célibat, avec la conjugalité, avec la parentalité? La question se pose, mais je pense que Paul la tranche pour nous. Se pourrait-il que, par ce biais, nos contemporains soient sensibles à une puissance de vie, si seulement ils nous entendaient? Il nous faut nous persuader que beaucoup de nos voisins, collègues, amis, seront sensibles à une odeur de vie quand ils nous verront nous débattre dans nos épreuves et nous accrocher au Christ. À vous de me dire, les meilleures conversations spirituelles que vous avez pu avoir avec vos collègues, amis, jusque-là, est-ce que ça n'a pas été autour de circonstances tragiques que vous avez traversées? C'est vrai pour mon épouse Caroline, qui a eu les plus belles opportunités dans la foulée du décès de sa maman. Entendez-moi bien, je n'encourage pas le misérabilisme, j'encourage pas les plaintes, mais j'encourage une chapelle de Nesle où les uns et les autres donnent à voir leur vie, leurs défis, leur malheur en toute sincérité, entre eux et plus largement. Et à mon avis, c'est justement ça le contexte principal dans lequel rendre compte de l'espérance qui est en nous. Vous connaissez peut-être ce verset dans la lettre de Pierre, qui nous invite à rendre compte de l'espérance qui est en nous, l'espérance de résurrection, l'espérance d'un autre monde, qui nous fait aborder nos malheurs présents différemment. L'ambassade qui est attendue des chrétiens comme nous, ce n'est pas d'abord le grand discours, les débats apologétiques, les arguments savants. Non, peut-être qu'il s'agit tout simplement de faire preuve de franc-parler dans les situations délicates de la vie. Celles-ci ne manquent pas et notre franchise attirera des questions, nous demandera compte de l'espérance qui est en nous. Qu'est-ce qui nous fait parler ainsi? Comment se fait-il que nous tenons encore dans nos malheurs? Et alors, il s'agira de désigner la puissance qui est à l'œuvre en nous, une puissance de résurrection au travers de nos malheurs. Finalement, se peut-il qu'évangéliser soit plus simple, plus naturel que ce que l'on croit? Si nous commençons par permettre à nos amis, collègues et voisins de mesurer ce que nous endurons et par souligner par quelle puissance nous les endurons, ces afflictions, il y a quelque chose. Est-ce que c'est trop candide? Est-ce que c'est trop risqué? On pourrait en effet objecter qu'il faut toujours montrer un produit sous sa meilleure lumière et qu'on ferait mieux de passer sous silence les fissures et les fractures et les choses qui nous troublent encore et encore. Mais prenez cet exemple. Les constructeurs automobiles soumettent leurs véhicules à des crash tests. Si vous allez dans un magasin bien éclairé, tout beau, avec des véhicules rutilants, vous verrez peut-être une vidéo promotionnelle à ce sujet. Le fait qu'un produit résiste au choc, c'est quelque chose qu'on estime devoir publier ses vendeurs. Voir un crash test avec des mannequins qui s'entrechoquent, ça remplit le client de sobriété. Mais quand on achète une automobile, voir cela, c'est attirant. Et pareillement, je suis convaincu que la foi chrétienne a le réalisme pour elle. Dans le monde des religions, c'est absolument unique et c'est vraiment fort. Quand le chrétien, au bénéfice de la vie du ressuscité, va s'exprimer sur ses malheurs, ça sera attirant. Et remarquez justement que c'est alors qu'il pense à la croix que Jésus aura ses paroles. Il s'apprête à être élevé en croix et il va dire ceci: « Quand je serai élevé au-dessus de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Le Christ estime que cette posture en croix est attirante. Nous, on aurait dit que c'était le pire moment pour attirer l'attention sur soi-même. Mais lui, il voit les choses autrement. En croix, il a bien voulu inviter le regard et il a soutenu le regard. Est-ce que nous voulons bien inviter des regards à se poser sur nous dans nos malheurs ? Et à ce propos, j'aimerais vous parler du cas de l'épouse d'un très bon ami sur Londres, suite à la naissance de leur troisième enfant. Il y a 13 ans de cela, son épouse souffre de dérèglements neurologiques, elle doit rester alitée la plupart du temps. Et on peut se dire quel témoignage pour sa famille non-croyante de la voir tenir ferme en Jésus. 13 ans, c'est long. Quel témoignage pour sa congrégation à Londres, quoique celle-ci ne la voit pas beaucoup. Cette congrégation sait son existence, sait sa lutte, sa persévérance. Et je me souviens d'une conversation avec cette amie où je lui partageais, pour l'encourager, combien c'était encourageant pour nous de savoir son endurance, leur endurance, pour nous tous dans l'Église. Et il a eu cette phrase: c'est un prix très cher à payer. C'est un prix très cher à payer, effectivement, que d'être tiraillé, désemparé. L'Église en est édifiée, le prix est cher à payer. Et à ce moment-là, je pense qu'il nous faut savoir que nous ne sommes pas les seuls à en compter le prix. Écoutez ce que disait le psalmiste, justement au psaume 116, au verset 15. « Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ses fidèles. » Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ses fidèles. Par égard pour notre Dieu devant qui la mort, notre mort a du prix, notre expérience de mort, il faut parler de nos afflictions. Ne pas nous en cacher, quels que soient nos contextes, plus ou moins difficiles. On a eu deux points ce matin. La vie est manifestée au travers de la mort. Parce que le chrétien y croit, il parle de sa mort. Le témoignage de nos faibles vies ne ressemble à rien, c'est exprès, il n'a pas d'allure, justement. C'est un témoignage qui est porté dans la faiblesse, quand on est débordé, submergé, sollicité par des enfants, tiraillé, mal préparé. Mais sachons que c'est justement de ce témoignage que Paul se glorifiait. C'était à ce témoignage que Paul revenait encore et encore, avec les Corinthiens et envers le monde. Voilà un témoignage rendu à la puissance vivifiante du Dieu Jésus-Christ. Et sur ce, je vous invite à la prière. Dieu de toute sincérité, Seigneur de la vie, nous nous tenons devant toi dans la faiblesse que tu sais être la nôtre. Qu'il s'agisse de la persistance de notre péché, de la morsure, de la douleur. Livrés à nous-mêmes, nous garderions le silence sur toutes nos réalités affligeantes. Ces péchés qui nous travaillent au corps, ces échardes, ces circonstances qui nous affligent. Mais tu nous encourages à une prise de parole audacieuse dans l'Église et au-delà, une parole de foi. Rappelle-nous combien tu es le Dieu de la vie, qui peut faire toute chose par rapport à notre vie quotidienne et par rapport à la vie éternelle. Fais-nous dire ce qui nous pèse vraiment sur le cœur, aux gens qui nous entourent, avec considération, mais aussi avec audace.
Fais-nous nous exprimer sincèrement, sans regret ni contrainte. Fais que notre congrégation soit un lieu où on partage tout ce que nous vivons et où on ne répond pas à ça va trop rapidement. Prions toutes ces choses afin que la puissance extraordinaire de vie, manifestée quand tu as relevé Jésus-Christ des morts, puisse être manifestée encore en nous, à nos contemporains. Utilise les faibles pécheurs que nous sommes pour te rendre un témoignage. Et ainsi, maintiens-nous sur cette trajectoire qui conduit à la résurrection. Si nous sommes humiliés avec le Christ, nous sommes et serons relevés avec lui. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Dans un instant, nous allons prendre un cantique à ce Dieu qui nous maintient encore et toujours dans une vie de chrétien, jour après jour, si nous comptons sur lui. Nous allons évoquer dans ce dernier cantique la parole et les promesses de Dieu, parce que Dieu nous fait tenir non sans utiliser des moyens de grâce, dont ceux-ci sont la parole et les promesses. Je propose de vous lever pour chanter.